Accent d'Europe, Frédéric Lebel.
Bonjour à tous aujourd'hui et pour cet été, nous vous proposons les meilleurs moments d'Accent d'Europe. Vingt ans après la fin de la guerre dans les Balkans, tout le monde n'a pas réglé ses comptes avec le conflit. Beaucoup de citoyens, et pas seulement des anciens combattants, peinent à l'admettre, mais le stress post-traumatique est encore largement partagé et peu soigné. Les cellules d'aide psychologique sont rares et c'est souvent à coup d'antidépresseurs que les médecins soignent ces maux. À Sarajevo, une seule association propose des thérapies de groupe. Lise Verbeck y a assisté.
Ce soir-là, elles sont 6 à participer à la thérapie. 4 mères, la cinquantaine passée, et 2 jeunes femmes. Les discussions vont bon train, les cigarettes s'enchaînent. Puis elles s'assoient en cercle, la séance démarre, le calme s'installe.
Détendez-vous, fermez les yeux, trouvez la position la plus confortable possible. Respirez profondément.
Edina Marmutovic est psychothérapeute. Plusieurs fois par mois, elle aide bénévolement des dizaines de personnes qui, depuis la guerre de Bosnie, souffrent du syndrome de stress post-traumatique.
Replongez-vous dans ce qui s'est passé ces dernières semaines depuis la dernière fois qu'on s'est vu. Qu'est-ce que vous avez fait? Vous êtes allé au cinéma, au théâtre? Très souvent, le traumatisme est enfoui. On commence toujours par parler de sujets qui, a priori, n'ont pas d'importance. Des sujets légers. Petit à petit, des connexions se font. On n'a pas besoin de parler directement du traumatisme vécu. On suit le corps, les émotions. Bien sûr, parfois on évoque directement la guerre devant le groupe ou face à moi, mais ce n'est pas forcément nécessaire. Certains attendent pendant 1, 2, 3 réunions ou plus avant de commencer à se confier. Ils démarrent quand ils sont prêts, je ne les pousse pas. Quand ils se sentent assez en confiance avec moi et avec les autres membres du groupe, ils abordent leurs problèmes.
En 1992, Mercia a 11 ans, jeune bosniaque, elle a été déportée avec sa famille dans un camp de concentration de Bosnie centrale. Pendant sa thérapie, elle est restée silencieuse les 3 premières années. 3 ans à écouter les autres sans pouvoir parler des atrocités qu'elle a vécues pendant la guerre, jusqu'à ce jour où elle a réussi à extérioriser ses terribles souvenirs.
Nous étions près d'un lac et l'association nous payait des vacances. On était assis sur l'herbe et on avait un exercice à faire. Dessiner sur une feuille le passé, le présent, ce qu'on pense être notre futur. Pour le passé, j'ai dessiné des barbelés. Ça représentait le camp de concentration. Pour le présent, j'ai dessiné mon bureau. Et pour le futur, j'ai fait un énorme point d'interrogation. Je ne sais pas pourquoi, chacun s'est exprimé sur son dessin. Et quand ça a été à mon tour, Edina, la psy, a certainement compris que j'étais prête à entamer un véritable travail. C'était très dur, je suis tombée dans les pommes plusieurs fois. Quand j'ai dit tout ce que j'avais sur le cœur, j'étais vidée. J'ai tellement pleuré, j'ai ressenti de la douleur dans chaque partie de mon corps. Edina m'a dit que c'était normal d'avoir mal comme ça. C'est comme si le corps expurgeait la douleur psychologique.
À partir de là, tout doucement, les cauchemars ont cessé. Mercia a retrouvé le sommeil, la concentration. Elle a repris, dit-elle, sa vie en main. Les symptômes de son stress post-traumatique ont presque disparu. En général, la thérapie est longue, les rechutes fréquentes, d'autant que cette guerre, à l'origine des troubles, est toujours très présente dans les esprits en Bosnie. Trop, selon Melina. Elle avait 5 ans quand son père a été tué au cours du siège de Sarajevo. Elle aussi a travaillé sur elle-même. Et c'est difficile de tourner la page quand le passé est constamment remué.
Je suis née en 1990. J'avais 2 ans quand la guerre a commencé. Donc je ne me rappelle de rien. Mais la plupart des médias passent leur temps à comparer les époques, avant, après. C'est typique de la mentalité des Balkans. Du coup, vous replongez sans cesse dans le passé et dans vos traumatismes. Je ne dis pas qu'on devrait oublier, mais on devrait se concentrer sur le présent. Ce n'est pas normal d'avoir les mêmes problèmes qu'il y a 20 ans. Ça veut dire qu'on n'a pas évolué.
Selon la psychologue du groupe, tous les Bosniens subissent le syndrome de stress post-traumatique, elle y compris. Parler de ces souffrances reste tabou. Rares sont ceux qui se soignent et Edina est persuadée que cette situation arrange bien les responsables politiques.
Il y a beaucoup de choses qui entretiennent tous ces traumatismes. L'État ne veut pas que ses citoyens retrouvent la santé, soient épanouis. Selon moi, l'État trouve des avantages au syndrome post-traumatique. Ceux qui en souffrent sont de bons petit soldat.
Dans toute la Bosnie, il n'existe qu'une dizaine d'associations, d'ONG qui aident les victimes. Elles le font gratuitement pour ceux qui n'ont pas les moyens de débourser 50 euros par consultation dans un cabinet privé.
Comment intégrer au mieux les réfugiés dans le monde sportif et du football? En particulier, un club allemand donne l'exemple. Il s'agit de celui de Potsdam, près de Berlin, qui a mis sur pied une équipe entièrement constituée de réfugiés, le Welcome United. Inscrite dans la division la moins prestigieuse, l'équipe participe aux compétitions officielles en Allemagne. Une vitrine pour un vrai projet d'intégration qui passe aussi par du travail et l'apprentissage de la langue. À Berlin, le reportage de Déborah Berlioz.
Il pleut ce matin à Golm, une petite ville près de Berlin. Nous sommes dimanche et l'équipe locale de foot s'apprête à disputer un match. Quelques supporters sirotent une bière en attendant le coup de sifflet. Un dimanche typique à la campagne en somme, mais l'équipe d'en face dénote un peu dans le paysage. Il s'agit du Welcome United, composé uniquement de réfugiés. L'équipe a été fondée par le club Babelsberg 03 à Potsdam. Thor Alfonso a participé au projet. Pour lui, une équipe de réfugiés à valeur de symbole.
Aujourd'hui, on assiste à des scènes révoltantes dans notre pays. On voit des gens mal avisés manifester dans les rues ou aller mettre le feu à des foyers de réfugiés, etc. Donc on veut donner un exemple positif face à tous ces exemples négatifs. Et on n'aurait pas une telle attention médiatique avec une équipe mixte.
Cela n'a pas été difficile de trouver des joueurs car le mot est vite passé entre les réfugiés dans la région et Thoralf n'a pas eu de mal à trouver des financements pour l'équipement.
C'était relativement facile car chez nous, il n'y a pas que le club qui est engagé, les fans le sont aussi. Donc quand le projet a commencé, une collecte a commencé, les supporters du Virage Nord ont collecté des dons et ils sont encore aujourd'hui sponsors des maillots de l'équipe.
La ville de Potsdam donne également 10 000 euros par saison au Welcome United. Sur le terrain, ce matin, on entend parler plusieurs langues. 8 nationalités différentes se côtoient dans l'équipe sans que cela ne provoque de tension. Oussemi, par exemple, est arrivé du Cameroun il y a 2 ans.
Ouais, l'ambiance est là, puis c'est entre nous les immigrés. Ouais.
Et en plus, on est différents, Cameroun, Nigeria. Non, entre-temps, on essaie de se comprendre. Quoi. Plus le Nigeria parle anglais, et nous, on parle français, les Camerounais. Et il y a aussi des Somaliens qui parlent aussi un peu anglais, et d'autres qui ne comprennent pas. Donc, mais on essaie de faire des gestes, vous comprenez.
Les entraînements se déroulent surtout en allemand, afin que les réfugiés apprennent la langue de Goethe. Et le club fait davantage pour leur intégration. Le Babelsberg 03 est en effet connu depuis longtemps pour son engagement antiraciste. Cela lui a même valu le surnom de San Paoli de l'Est. Thoralf et les autres membres du club aident notamment les joueurs dans leur démarche administrative ou à trouver un travail.
On essaye et on arrive parfois à leur trouver des emplois grâce à nos sponsors. La plupart des joueurs travaillent maintenant au moins à mi-temps. 2 travaillent dans la cuisine de notre traiteur, donc ce sont différents petits jobs.
Ce matin, peu de supporters ont fait le déplacement, mais l'été dernier, ils étaient entre 200 et 300 à chaque match, principalement des supporters de la première équipe du club. Balthazar, 14 ans, est venu aujourd'hui malgré la pluie.
Je suis supporter du club de Babelsberg 03 et j'ai entendu parler de ce projet et je trouve ça génial car je pense qu'il est important de donner de l'espoir aux réfugiés ici et qu'on leur montre qu'ils sont les bienvenus.
Il apprécie aussi les matchs de Welcome United parce que les joueurs sont doués. L'entraîneur de l'équipe, Sven Georg, le confirme, il coache l'équipe bénévolement.
Quand on s'inscrit en tant que nouvelle équipe dans la compétition officielle en Allemagne, on commence vraiment tout en bas. Donc ce sont vraiment des joueurs amateurs. Mais dans notre équipe, nous avons des joueurs qui ont déjà joué en professionnel ou semi-professionnel quelque part dans le monde. Donc d'un point de vue formation et talent, nous avons de très très bons joueurs.
Résultat, Welcome United a gagné presque tous ses matchs jusqu'à maintenant. Et les rencontres ont souvent lieu dans les confins du Brandebourg. Or, dans cette région autour de Berlin, la police a recensé 68 attaques sur des foyers de réfugiés l'année dernière. Mais pour le moment, Thoralf n'a remarqué aucun incident raciste envers ses joueurs.
Je pense que jusqu'à maintenant, l'attention médiatique était trop importante pour que les gens osent montrer des opinions d'extrême droite.
C'est encore une victoire pour le Welcome United aujourd'hui, 4 à 1. L'équipe de réfugiés a de bonnes chances de monter dans la classification à la prochaine saison.
me back my old room. I won't make a mess like I used to. Won't play my records.
Un plan national de formation pour devenir un bon parent, c'est l'initiative qu'a lancée en 2016 l'ex-premier ministre britannique David Cameron. Les cours devraient s'adresser à tous et s'atteler à résoudre les problèmes de communication, de comportement et de discipline. Vaste programme, mais est-ce vraiment une bonne idée ? Réaction à Londres avec Marie Billon.
Les enfants ne naissent pas avec un mode d'emploi, a dit David Cameron. Il compte donc composer un manuel et même développer des cours. Des cours accessibles à tous grâce à des coupons que le gouvernement envisage de distribuer aux familles en fonction de leurs ressources. La formation parentale, une fausse nouvelle idée qui avait déjà été brandie comme une solution après les émeutes de Londres en 2011. Près de 7 millions d'euros avaient alors été investis dans le projet Can Parent pour les familles défavorisées. Mais l'expérience était soldée par un échec. 20 000 parents étaient attendus, moins de 3 000 ont finalement participé et seulement 9% d'hommes. Un cours de rattrapage pour les pauvres, c'est ainsi que le programme avait été perçu. Il était donc voué à l'échec. Désormais, le gouvernement voudrait que les cours de parentalité soient aussi répandus que les cours de puériculture en maternité. Mais est-ce bien là le rôle de l'État ? Doit-il s'ingérer dans le home sweet home des Britanniques ? La presse de droite, le très conservateur Daily Mail en tête, estime que l'État-providence dépasse les limites et se mêle de ce qui ne le regarde pas, même si le quotidien est le premier à dénoncer les soi-disant parents fainéants quand ils traitent de la délinquance juvénile par exemple. Mais aussi, David Cameron est-il vraiment le mieux placé pour lancer ce vaste plan Marshall des familles ? Lui qui, rappelle perfidement la presse, avait tout de même oublié sa fille dans un pub en 2012, ne pas semer ses enfants à travers le pays semble effectivement une solide base de départ.
La ville de Florence en Italie a un nouveau musée, pas de peinture du Quattrocento ici, mais des traces de vie. Le musée des Innocents raconte le parcours de ces enfants orphelins et abandonnés au travers des objets et des archives de ce bâtiment qui fut le plus ancien lieu d'accueil du pays. Visite avec Mathilde Villain.
C'est un musée roman, un livre ouvert qui raconte les vies des enfants abandonnés au fil des siècles. Le musée des Innocents vient d'ouvrir ses portes à Florence, dans l'un des plus anciens orphelinats du chef-lieu de la Toscane. Des objets, des registres, des œuvres conservées précieusement au fil des années ont servi de clé pour reconstruire les parcours des enfants avant et après l'orphelinat. On découvre que des parents cachaient parfois dans les langes une petite médaille, un crucifix, un morceau d'étoffe ou de coquillage, afin de permettre, s'il le fallait, un jour, d'identifier leur enfant. On découvre aussi des lettres rédigées par des inconnus ayant recueilli un enfant abandonné et le confiant aux bons soins du Spedale degli Innocenti, l'hôpital des Innocents, c'est ainsi qu'était appelé l'orphelinat à Florence. 13 551 documents d'archives ont permis de retracer, par exemple, l'histoire de la petite Lucia Caterina. Abandonnée à tout juste un mois en 1446, elle a été confiée à une famille aisée, puis à une nourrice du Val d'Arno, et enfin à un cordonnier qui devait l'élever comme sa propre fille. La conservatrice du musée des Innocents se félicite même d'avoir retrouvé l'inventaire de la dot de Lucia Caterina lorsqu'elle se maria. Des histoires de vie sans histoire auxquelles il est pourtant difficile de rester indifférent, comme face à ce bouton de chemisier cassé en deux et glissé dans un couffin par une maman désespérée, dans l'espoir de pouvoir un jour revoir son enfant.
Et on vous emmène en promenade pour terminer l'émission dans un paysage qui pourrait faire penser à la Suisse, sauf qu'il s'agit de la Turquie. Le lac d'Abant est un site majestueux situé à 1328 mètres d'altitude qui fait rêver tous les amoureux de la nature et notre correspondante Anne Andlauer en particulier.
L'endroit ressemble à s'y méprendre à une station de sport d'hiver, peut-être quelque part en Suisse, avec ses sapins enneigés, son lac et ses chalets en bois. Certains le surnomment même le Davos de Turquie. Certes, le lac d'Abant n'a pas la renommée mondiale de son cousin des Grisons suisses, mais ce n'est pas non plus un écrin méconnu. Chaque année, plus de 500 000 touristes visitent la province de Bolu et son lac le plus célèbre, situé à mi-chemin entre Istanbul à l'ouest et Ankara à l'est. Comment décrire Abant autrement que comme un merveilleux coin de nature, avec son lac d'eau douce de 125 hectares entouré de pinèdes, au milieu d'un parc naturel de 1200 hectares. Il faut y aller au moins 4 fois en chaque saison, tant le décor semble renaître, si beau et différent à chaque période de l'année. Beaucoup l'apprécient en hiver lorsque les cimes sont blanches et que l'eau est glacée, ou au premier jour de l'automne lorsque le lac se couvre de fleurs de nénuphars jaunes et blanches et lorsque la forêt rougit. Abant est également le premier lac de Turquie permettant l'élevage de truites grâce à un système de bassins. Il y a quelques années, on y a aussi trouvé des loutres dont la chasse est interdite. Le tour du lac dessine une longue promenade de 7 km, jalonnée de multiples bancs. On peut aussi choisir de faire ce parcours en voiture, à cheval ou à bord d'une calèche. Sachez enfin que la comparaison avec le Davos suisse ne concerne pas seulement la splendeur du paysage. Les hôtels 5 étoiles qui bordent les eaux douces du lac accueillent régulièrement sommets et conférences. Un intérêt croissant que ne voient pas d'un bon œil les amoureux du lieu, qui craignent pour la flore et la faune d'Abant.
Just a minute. The leader of the band wants to show you how well they can play. Let's listen.
Et nous retrouvons Vincent Teval pour la chronique musique. Bonjour Vincent.
Bonjour Frédéric.
Vous nous parlez aujourd'hui d'un groupe espagnol.
Señor Chinaro, c'est l'un des groupes phares et surtout l'un des vétérans de la scène pop indépendante espagnole, un groupe formé au tout début des années 90 par l'auteur-compositeur Antonio Luque, dont l'inspiration se nourrit des grandes heures de la pop anglaise, mais qui a toujours mis un point d'honneur à écrire et chanter en espagnol. Près de 22 ans après son premier album, le groupe publie ce printemps son 16e disque, El Progreso. Et voilà un exemple où la qualité et la longévité finissent par payer, puisque Señor Chinaro connaît ces dernières années en Espagne un succès qui lui avait longtemps échappé. À l'écoute de cette pop à guitare généreuse et élégante, on ne peut que s'en réjouir.
Pasé del tío vivo a la olla express, muriendo por hacerme fuerte. De la hostia consagrada al LSD, el dios del truco de la mente. Vi a mi padre en el alambique veloz, a mi madre en su locomotora. Enseñé cámara y acción. Había que hacer algo. ¿Quién va a ser el mejor? Me dices todavía hoy tú también. Me encantó. Sigue y déjate de hablar de principios y finales. La historia no está ni solo efectos especiales. Sin la sangre fría de un torero y sin la pluma de Capote, la selva virgen fue por todos descubierta, el apocalipsis fue hace mucho. Ideales para una sociedad alerta, la voz del grito de Eduard Mann en boca de alguien que no escuchó.
Accent d'Europe était réalisé aujourd'hui par Guillaume Munier. On se retrouve dès demain.
Et si le temps d'un été...